Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Pour une comédie transgressive avec Yannick Mourin, Adrien Desnouettes et Raphaël Clairfont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Des travailleurs humiliés et aliénés et des violences policières, des crimes impunis, bien mal acquis, profitent toujours des apologies de l'adultère, du ménage à trois, de la bisexualité et même de l'inceste. Les idéaux les plus élevés, bafoués. Les valeurs de la nation, sapées. Et puis encore, des tueurs en série, des bidonvilles sordides jusqu'à des religieux lubriques dont la foi n'est que l'habit honorable permettant de camoufler la libido. Et je ne vous parle même pas de ces crétins et encore plus crétins, puceaux décérébrés, pervers, scatophiles, sociopathes zonanistes, animalistes misanthropes, schizophrènes, priapiques, obsédés chroniques, télévores, boulimiques, chômeurs incultes, assistés un peu cons et autres étrons humains déféqués du postérieur d'un rhinocéros en plastique qui hante des faux films pour enfants piratés de l'intérieur. Toutes ces images navrantes, non seulement vous les avez vues, mais vous ne vous en êtes même pas offusqué. Vous en avez même ri, honte à vous, à gorge déployée, et leur avez fait un triomphe. Et c'est ainsi que la comédie, dans sa forme transgressive, a, depuis l'invention du cinéma, ou presque, permis à quelques dangereux subversifs de critiquer la société et les mœurs de leur temps, sans encourir le risque du rejet et de la censure. Dans un temps sinistre où nous avons plus que jamais besoin, sous le masque, de rire de nos infortunes et de nos ridicules, c'est ce que racontent deux livres dont les auteurs sont aujourd'hui nos invités. Prendre au sérieux la comédie de Yannick Mourin, qui dégage en une cinquantaine de films quelques lignes de force des moyens utilisés pour s'en prendre aux valeurs les plus sacrées, et Jim Carrey, l'Amérique démasquée d'Adrien Desnouettes, qui interroge la figure énigmatique et perpétuellement masquée du Midas du mauvais goût, ex-roi d'Hollywood et de l'humour régressif et scatologique, ce comique outrancier et incontinent dont on avait un temps perdu la trace avant qu'il ne rejaillisse récemment en double télévisuel de Joe Biden. En fin d'émission, Raphaël Clairfont, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, viendra nous parler d'un autre grand psychotique de l'écran, au sourire carnassier, yeux vitreux et sourcils circonflexes, le grand Jack Nicholson. Mais pour l'heure, on retrouve une famille nombreuse au funeste destin, ou ce qu'il en reste.
Lorsqu'à cette heure tout fut fini, je suis sorti de ma cachette et je me suis trouvé nez à nez avec le docteur éreinté qui s'épongeait le visage. Il me vit, me regarda et n'en crut pas ses yeux. Qu'est-ce que je faisais là sur la terre? De quel droit n'étais-je pas mort comme tout le monde? Et il me regardait comme si j'étais un phénomène ou bien le diable. Ce garçon de 12 ans qui absorbait impunément des champignons vénéneux, qui survivait à tous les siens, ça devenait très intéressant pour lui, cela. Oh, quel champ d'expérience! Et comme il m'a semblé qu'il se voyait déjà penché sur mes viscères, j'avouais que je n'en avais pas mangé.
Pourquoi?
Et ce pourquoi partit très vite. Je jure qu'il l'a dit sur un ton de reproche. À tel point que, ma foi, j'ai raconté mon crime, mon vol, et j'ai dit qu'elle avait été mon châtiment. Alors il eut un clignement d'œil qui semblait dire « Ah, oh, toi pas bête !» L'histoire fit rapidement le tour du village et je laisse à penser quel commentaire elle souleva. Et le jour de l'enterrement, derrière ces 11 cercueils, que je suivais la tête basse et les yeux secs, je me demandais si le fait d'avoir été miraculeusement épargné ne me donnait pas l'air un peu d'avoir assassiné tout ce monde. Cependant que dans mon dos l'on chuchotait, « Savez-vous pourquoi le petit n'est pas mort ? C'est parce qu'il a volé. » J'étais vivant parce que j'avais volé. De là en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Et ce soir-là, m'endormant seul dans la maison déserte, je me suis fait sur la justice et sur le vol une opinion peut-être un peu paradoxale, mais que 40 années d'expérience n'ont pas modifiée.
Voilà une histoire tout à fait navrante d'un jeune homme qui a volé, qui a été puni, privé de dîner, et ça lui a permis d'échapper aux champignons empoisonnés qui ont tué toute sa famille. La morale de cette histoire est d'un cynisme assez violent, écrit en 1936 un jeune critique et futur scénariste, Pierre Bost, à propos du roman d'un tricheur, le chef-d'œuvre, premier chef-d'œuvre de Sacha Guitry, dont on vient d'entendre le début. Le film, notez-vous, Yannick Mourin, est aujourd'hui considéré comme une date dans l'histoire du cinéma pour son audace formelle, mais il fait aussi date dans la perspective de votre livre, parce qu'il est, et ça vous intéresse beaucoup, un éloge éhonté de la malhonnêteté que le spectateur, par le rire, est enclin à approuver. Et ça sera pire encore ensuite avec La Poison et son féminicide de Michel Simon acquitté pour légitime défense anticipée, ou encore Assassin et voleur, à propos duquel vous citez un des spécialistes de Sacha Guitry, Noël Simsolo. Il est surprenant que la censure n'ait pas bronché, puisque le film est une apologie du vol, du meurtre, de l'adultère et de la malhonnêteté encore, et puis je dois encore en passer. Au-delà d'amuser son public, il y a pour le coup un projet véritablement subversif chez Sacha Guitry, Yannick Mourin.
Oui, tout à fait. Sacha Guitry était quelqu'un qui avait une position sociale un petit peu bizarre, parce qu'il fréquentait vraiment des gens très 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 fortunés, mais lui venait du monde du spectacle. Et donc, il a regardé ces gens, les bourgeois honnêtes, comme on dit, avec un œil très critique. Et c'est pour ça qu'il a, dans son cinéma, été particulièrement virulent contre cette honnêteté qui est une de ses cibles favorites.
Alors, vous abordez dans votre livre plusieurs cinématographies qui viennent comme ça au fil de chapitres thématiques. Et puisqu'on est dans le cinéma français, vous citez un des grands comiques français qu'est Jacques Tati. Et vous reprenez une de ses citations où il disait « Il n'y a pas de film comique qui ne soit pas contestataire ». Or, à lire votre livre, ce n'est pas si simple que ça, puisqu'il y a la comédie transgressive qui vous intéresse. Mais on pourrait dire que la majorité des comédies produites sont ce que vous appelez normative. Alors, quelle est la différence entre les deux, pour qu'on sache bien de quoi on parle?
Oui, une comédie, ce que j'appelle une comédie normative, c'est une comédie qui souligne l'écart par rapport à la norme sociale. Je donne l'exemple, je trouve qu'il est très révélateur, de Molière avec le bourgeois gentilhomme, parce que le bourgeois gentilhomme, c'est un individu qui s'écarte d'une norme sociale, c'est-à-dire rester dans sa classe sociale. Tandis qu'une comédie transgressive, c'est une comédie qui met en accusation la société dans son fonctionnement. Alors, de manière un petit peu déguisée, évidemment, mais fondamentalement, c'est ça l'intention des comédies transgressives, mettre en accusation la société dans son fonctionnement. Et ça, il n'y a évidemment qu'un nombre limité malgré tout de comédies qui accèdent, hein, c'est évident.
Alors, vous-même, en faisant le compte un peu des titres que vous avez cités, j'imagine que ça résonne aussi avec votre propre cinéphilie, vous vous rendez compte que la majorité des films sont américains, suivis par l'Italie, et que la France n'arrive qu'en troisième position. Alors, au-delà du nombre de films produits chaque année, comment est-ce que vous expliquez ces différences? Et est-ce que la France est un peu le parent pauvre de la comédie transgressive?
Oui, en un sens que la censure en France était quand même forte. Hein. Il ne faut pas oublier ce que peu de gens savent, que la différence fondamentale entre la France et les États-Unis pour ce qui est de la censure, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas une censure d'État. C'est Hollywood, le système hollywoodien, qui a fait son auto-censure. Et donc, c'était toujours un compromis, puisque c'était Hollywood lui-même qui organisait ça. C'était un compromis entre l'argent que l'on peut tirer d'un film qui va peut-être aller un petit peu loin et une certaine interdiction. Tandis qu'en France, il n'y avait aucun compromis. C'était l'État qui décidait. Donc, je donne des exemples dans le livre où, par exemple, l'armée, ça a été quelque chose qui a été critiqué dans le cinéma américain. Alors que le cinéma français, il a fallu qu'il attende très 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 longtemps pour pouvoir critiquer l'armée. C'était absolument impensable de critiquer l'armée. Mais dans le cinéma américain, vous trouvez des exemples. Parce qu'il n'y avait pas une censure d'État qui dise « Non, vous n'avez pas le droit de critiquer l'armée ». Évidemment, c'est jamais en temps de guerre. Hein. Ça, c'est toujours après la guerre qu'on peut se permettre de critiquer l'armée.
E te comporti da uomo tutto matto, ma che vuoi fare? Oh, Amando, perché hai cambiato sesso? No, piantala, che mi viene da ride.
La gente che passava deve essere bellissimo avere una casa tutta di fiori e giocarti dentro. Deve essere una casa allegra e divertente. Non aveva neppure vasi sufficienti per riempirli di fiori. Aveva cominciato a raccogliere fiori, a fare seminari, e a metterli in centro botteghe per avere fiori anche da altri.
Patriarche borgne d'une famille nombreuse au-delà de la pauvreté qui survit dans un bidonville des hauteurs de Rome avec vue imprenable sur le Vatican. Ce sont les cloches de Saint-Pierre de Rome hein, qu'on entend actuellement sonner et qui vient dans cet extrait à travers une vitre d'une crasse sans nom de reluquer sa belle-fille hein, en train de se faire trousser par son beau-frère déguisé en femme. C'est Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola en 1976. Un film qui est intéressant parce qu'il a eu l'insigne honneur de déplaire aussi bien aux catholique qu'au marxiste, une agression insoutenable pour les uns. Scola fait injure aux miséreux en faisant rire à leurs dépens pour les autres. Et c'est effectivement un tabou que transgresse allègrement Ettore Scola, vous l'écrivez Yannick Mourin. Ce tabou, c'est l'idéalisation du pauvre. La comédie italienne va très loin.
Oui, oui. Ça, c'est extraordinaire comme transgression, parce que personne n'osait toucher aux pauvres. Le pauvre était toujours présenté comme la victime, alors avec un regard différent des chrétiens et des marxistes, mais c'était quand même toujours la victime. Et là, Ettore Scola transgresse ce tabou et il montre des pauvres qui ne sont pas simplement des victimes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ces pauvres sont eux-mêmes ignobles, affreux, sales et méchants. Non pas parce qu'ils sont nés pauvres, hein, Ettore Scola est totalement conscient, c'est leurs conditions de vie qui les rendent comme ça, affreux, sales et méchants. Mais même ça, personne n'osait le dire. Et lui, il ose le dire, et comme par hasard, il ose le dire dans un film comique. Et je pense, c'est un peu ma thèse, qu'il n'aurait pas pu le dire dans un film non comique, que ce n'aurait pas été acceptable si le film n'avait pas été une comédie. Ça rend ce discours supportable, hein, de présenter les pauvres comme des gens qui ne sont pas simplement des victimes malheureuses, mais qui sont aussi des gens qui peuvent commettre des actions absolument ignobles. Mais il arrive à en rire. Et ça rend la chose supportable, selon moi.
Mais Ettore Scola avait un grand ancêtre aux États-Unis, qui était évidemment Charlie Chaplin. Le premier Chaplin, celui d'avant les longs métrages de Charlot, est un vagabond qui se comporte pas toujours très bien, qui peut être lui-même affreux, sale et méchant par moments. Et vous notez que le grand apport de Chaplin, c'est qu'il a été un des rares cinéastes américains qui a rendu visible un lumpen prolétariat, qui a rendu visible des rapports de classe et qui évidemment, dans les longs métrages ensuite, notamment dans les temps modernes, va montrer ce qu'est le taylorisme, va montrer ce qu'est l'aliénation du travailleur et va montrer des violences policières, par exemple.
Oui, oui. Les temps modernes, c'est absolument extraordinaire d'audace, hein, de montrer vraiment la condition ouvrière, de se moquer du patronat, évidemment d'une manière assez travaillée. Hein, il fait pas ça avec des gros sabots, mais malgré tout, il se moque du patronat. Il montre vraiment le taylorisme, ce que jamais le cinéma américain n'avait fait avant lui. Et comme il est dans la comédie, eh bien, ça passe. Hein, bien sûr, il y a quand même des gens qui, tout de suite, aux États-Unis, ont été fortement embêtés que Chaplin tienne ce discours. Mais malgré tout, le public a suivi, c'est ça qui était le plus important, et le film a eu un succès retentissant, malgré sa critique vraiment virulente du taylorisme, du capitalisme, du patronat, ce qui était quand même étonnant.
Adrien Desnouettes, on va parler tout à l'heure ensemble de Jim Carrey. On verra comment Charlie Chaplin s'invite dans votre livre. Mais c'est vrai que l'image qu'on a de Charlot aujourd'hui, qui est un monument du cinéma incontestable, n'est pas forcément la même qu'on avait à l'époque. Vous écrivez que Chaplin savait où frapper en plein dans le mythe et que c'était un désastre sans précédent pour l'Amérique, le fait que ce pays soit tout entier représenté par un clochard.
Début en fait de l'œuvre de Chaplin, qui est presque d'ailleurs moi ce que je préfère, c'est-à-dire le moment où Chaplin n'est pas vraiment moral, c'est-à-dire le moment d'avant le Kid, d'avant les longs métrages, où en fait en vérité Charlie Chaplin est avant tout un personnage d'indésirable et qui le comprend très bien, qui le met en scène et qui tout en étant reconnu comme étant très très vite, hein, dès 1914, dès qu'il arrive dans les studios de Max Sennett, les studios de la Keystone, très très vite il est extrêmement populaire et très très vite ça dérange parce que Chaplin n'hésite pas, et surtout au début d'ailleurs, surtout de 1914 à 1918, surtout pendant qu'il est justement plutôt dans une production frénétique de plusieurs dizaines de courts-métrages par an, on est vraiment avec un personnage qui va intégrer ce qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Ce à partir de quoi on n'a pas du tout envie de rêver, ce qui ne fait pas du tout la publicité de l'abondance américaine et de ce que l'Amérique aimerait construire à travers son cinéma. Donc on est vraiment avec un personnage d'indésirable, un personnage d'indécrottable, qui est celui qui m'intéresse le plus et celui qui a déjà commencé à déranger bien avant le Code Hays, bien avant les temps modernes et bien avant les Lumières de la Ville. Ouais.
When you're chewing on last gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life.
Vous écoutez France Culture, Plan Large, avec Yannick Mourin et Adrien Desnouettes sur la comédie transgressive. Et alors, pour le coup, en voilà une de comédie transgressive, tellement qu'elle a été interdite dans 9 États des États-Unis et dans divers pays européens. C'est évidemment La vie de Brian des Monty Python en 1979, avec la fin de ce film, cette chanson joyeuse et optimiste, entonnée par une flopée de crucifiés. Ce n'est d'ailleurs pas, notez-vous Yannick Mourin, la seule comédie irréligieuse à avoir eu des problèmes avec la censure dans l'histoire du cinéma. On s'attaque difficilement à la religion, même sous couvert du comique, Yannick Mourin.
Oui, la religion, c'est l'obstacle le plus difficile. C'est vraiment, la religion n'admet pas fondamentalement, toutes les religions, hein, d'être moqué, d'être l'objet de raillerie. Et ça, c'est vraiment très très marquant. Et donc, les cinéastes qui ont voulu faire des comédies sur la religion, ce sont effectivement, ça a été le cas pour les Monty Python, mais ils sont pas le seul, ce sont effectivement heurté à une résistance très très forte. Et après les Monty Python, ça a continué et ça continuera encore, hélas, je pense, pendant très très longtemps.
Oui, c'est très difficile. Je pense que faire les la vie de Brian aujourd'hui serait probablement totalement impossible. Alors, encore plus impensable. Aujourd'hui, ça serait de faire un film qui se moquerait de l'islam, par exemple, alors qu'on sort à peine du procès de l'attentat de Charlie Hebdo. Il y en a un qui s'y est risqué en le prenant de biais. Et d'ailleurs, son film n'a pas très bien marché. C'est Riyad Satouf avec Jackie au Royaume des Filles.
Tout à fait. C'est le seul film que j'ai trouvé et je pense qu'il est très intéressant, que malheureusement la critique est passée à côté. C'est un film qui attaque la religion, mais de manière très très détournée, parce qu'il passe par une métaphore, puisqu'il invente une religion qui n'existe pas, la religion chevaline, et il inverse les caractéristiques de l'islam, parce que c'est les hommes qui sont totalement dominés par les femmes, mais tout le monde comprend que la religion musulmane est derrière ça, puisque les hommes portent ce qui est vraiment une burqa, ils sont complètement dans une situation de domination, qui correspond à la situation de la domination de la femme dans l'islam, et donc il y a évidemment une attaque de la religion musulmane, mais d'une façon complètement déguisée. Il s'est protégé en quelque sorte par la comédie et par sa métaphore.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore de la comédie transgressive aujourd'hui ? La censure, par exemple, en France, officiellement, a disparu depuis le début du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Vous citez le sous-titre de l'ouvrage de Frédéric Jameson, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, où vous lui faites dire « on peut tout dire à condition de gagner de l'argent en le disant ». Ou est-ce qu'on pourrait dire, au contraire, que la censure n'a peut-être plus lieu d'être parce que la comédie actuelle, surtout dans son acceptation populaire, est très largement normative pour le coup?
C'est la grande question. Hein. J'ai fait le chapitre sur ça. Est-ce qu'il y a encore une comédie transgressive? Alors, c'est le chapitre qui m'a donné le plus de difficultés, je l'avoue. Je suis quand même arrivé à trouver des films qui me semblaient être dans la continuité de la comédie transgressive qui existait pendant la censure. Par exemple, j'ai donné l'exemple de trois comédies qui font de l'humour avec la Shoah. Bien sûr, un humour qui ne s'en prend absolument pas aux victimes, mais qui font quand même de l'humour. Et c'était un interdit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des critiques quand le film de Roberto Benigni, La vie est belle, est sorti. Il y a des critiques français qui ont écrit « Il faudrait interdire des films, et en particulier des comédies, sur la Shoah ». Donc des critiques français écrivent « Il faut interdire ». Hein, l'interdiction n'est pas réclamée constamment par les mêmes partis, par le même côté politique. Elle a été réclamée par des gens, c'est un journal que je ne citerai pas, qui est plutôt marqué à gauche, et pourtant ils ont réclamé l'interdiction. Hein, le mot a été prononcé. Donc malgré tout, il y a encore des films qui peuvent provoquer, outre les films sur la religion, des films qui peuvent provoquer des envies d'interdire, et en particulier des comédies. Mais effectivement, j'estime que c'est maintenant beaucoup plus rare, parce qu'effectivement, la phrase que vous citez est tout à fait vraie. Tant qu'on peut gagner de l'argent avec, ben, on y va et on laisse faire. C'est le principe un petit peu.
On va voir à présent, si vous voulez bien, un cas très particulier de comique tout à fait transgressif qui d'ailleurs, Yannick Mourin, il me semble, n'est pas dans votre livre.
Me too. Except my arm is really bothering me.
Oh no, Dad.
Oh yeah. It's becoming the claw! Nothing can stop the claw! Run, boy, run! Save yourself!
Uh-oh. You found the claw's only weakness. Sub-zero temperatures!
We usually don't pick up hitchhikers. But I'm gonna go with my instinct on this one.
Saddle up, partner. You're it. You're it. You're it. Quitsies!
Any quitsies?
You're it, quitsies. No any quitsies, no startsies.
You can't do that.
Can't do?
Cannot. Stamped it.
Can't do double stamped it, no erases.
Cannot. Triple stamped it, no erases. Touch
no,
blue, make it
no,
through.
No. You can't triple stamp a double stamp. You can't triple stamp a double stamp, Lloyd. You can't triple stamp a double stamp. Lloyd! You
guys! Enough!
Hey. Want to hear the most annoying sound in the world?
Guys! Guys! Guys!
Beautiful. It's so dark and gothic and disgustingly decadent. Yet so bright and chipper and conservative. It's so you, and yet so you. Very few people are both a summer and a winter, but you pull it off nicely.
On pourrait croire à la bande-son d'un cartoon et on en est d'ailleurs pas loin. Un petit portrait de Jim Carrey réalisé par Laurent Polleret, 1994, je vous cite Adrien Desnouettes. Coup de tonnerre à Hollywood, après 10 ans d'errance dans les latrines du show business, un comique raté de 32 ans récolte en 3 films plus de 700 millions de dollars avec Ace Ventura, détective pour chien et chat, The Mask et Dumb and Dumber. D'un coup, dans l'ombre de la gonflette de l'aérobic et du patriotisme des années 80, c'est soulever toute une trash comédie en un seul homme. Et c'est là, Adrien Desnouettes, que vous faites un parallèle avec Charlie Chaplin, comme on le disait tout à l'heure, son apparition brusque 80 ans avant, 1994, passé à Hollywood en moins d'un an du degré zéro ou presque de la notoriété au statut d'acteur le plus bankable de la planète, cela ne s'était pas vu depuis l'aube du slapstick américain. Quel est cet étrange alignement de planètes en 1994 qui permet l'émergence d'un Jim Carrey, Adrien Desnouettes?
Disons que l'explication de l'émergence, de l'apparition tonitruante de Jim Carrey, précisément en 1994, a plusieurs origines qui font évidemment l'objet de plusieurs descriptions dans mon livre. Disons qu'en 1994, déjà, je dirais que l'explication principale expliquer Jim Carrey, c'est l'immense mode, c'est-à-dire que la vogue, le retour massif du cartoon. C'est-à-dire que le cartoon avait disparu, comme vous le savez sans doute, dans les années 60-70, parce que son industrie avait tout simplement périclité. En même temps d'ailleurs que, à peu près, ça coïncide avec le moment où l'âge d'or hollywoodien termine. Et puis ça revient d'un coup avec l'immense succès commercial de Qui vaut la peau de Roger Rabbit, qui d'ailleurs n'était pas dénué d'une certaine subversion. Dans la foulée de ça, Disney se remet à essaimer des Disney World en Europe, se remet à faire des films. Le cartoon devient une immense mode à la télé avec les Animaniacs et tout ça. Et puis, énormément de studios de cinéma se mettent à vouloir produire leurs films de cartoon. Je dirais que, au-delà de The Mask, les trois films dans lesquels apparaît Jim Carrey en 1994, qui sont Ace Ventura en Afrique, Dumb and Dumber et donc The Mask, ont pour point commun, avant l'idiotie et avant même l'énormité sur laquelle on reviendra sans doute, ont pour point commun qu'en fait on découvre sous trois costumes différents un même acteur qui est capable en fait d'être un cartoon fait homme, c'est-à-dire un cartoon vivant, quoi, un acteur qui est élastique, qui a un corps qu'on n'avait plus vu depuis, alors j'ai envie de citer Jerry Lewis et même les burlesques des années 20, les burlesques de l'âge d'or, mais qui est presque un corps encore plus performant, encore plus performatif, encore plus excessif. Un corps qui serait une espèce de grimace continuelle, une grimace incessante, derrière laquelle il n'y aurait aucun fond. Voilà, une espèce de toon qui arriverait comme ça. Alors ça explique évidemment, d'un point de vue économique et commercial, pourquoi Jim Carrey arrive à ce moment-là, pourquoi ça marche très très bien pour lui. Parce que voilà, tout le monde a envie de voir une espèce de comédie délurée, frénétique, hystérique, et que Jim Carrey arrive pile poil à ce moment-là. Mais c'est aussi expliqué, par... plus largement, l'idée que, à ce moment-là, le cinéma américain commercial, mainstream, et on peut aller chercher beaucoup plus loin que dans la comédie, hein, on peut même aller chercher beaucoup plus loin que dans le cinéma, on peut se dire que, bah, qu'est-ce qui marche à ce moment-là? Quels sont les films surprenants? Quels sont les films qui obtiennent une adhésion incroyable? Et par exemple, on peut citer Basic Instinct de Paul Verhoeven, on peut citer quelques années plus tard Starship Troopers de Paul Verhoeven, on peut citer les Martin Scorsese comme Les Affranchis, où, en fait, se devine une espèce de volonté de pousser tous les voyants au rouge, c'est-à-dire une volonté de montrer des choses excessivement. Et je pense que Jim Carrey est tout simplement un produit culturel qui appartient à cet excès, c'est-à-dire qui appartient aussi à l'excès du gangsta rap, qui va venir caricaturer Scarface, ou du moins contrefaire Scarface dans chacun des clips, contrefaire une idée du bonheur qui vire à l'excès, contrefaire une idée du bonheur et de l'American Dream qui trébuche sur sa propre caricature. Et bien Jim Carrey arrive à ce moment-là pour en proposer quelque chose de comique, quelque chose d'énorme, quelque chose qui paraît tellement justement tellement excessif qu'on n'en voit pas la charge subversive. Mais je pense que Jim Carrey vient précisément caricaturer quelque chose qui a trait en tout cas qui concerne beaucoup d'aspects de la culture et des produits culturels mainstream, pop de cette époque-là. Ça explique vraiment, je pense, l'apparition tonitruante de Jim Carrey en 94.
Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions.
Then who am I?
You're the star.
Was nothing real?
You were real. That's what made you so good to watch. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself.
I never had a camera in my head.
You're afraid. That's why you can't leave. It's okay, Truman. I understand. I have been watching you your whole life. I was watching when you were born. I was watching when you took your first step. Watched you on your first day of school. The episode when you lost your first tooth. You can't leave, Truman.
Please, God.
You belong here.
You can do it.
With me. Talk to me. Say something. Say something, goddammit! You're on television! You're live to the whole world!
The Truman Show de Peter Weir, un grand succès, un succès surprise de l'été 1998. L'histoire, comme vous l'écrivez, Adrien Desnouettes, du premier être humain fécondé in televisio, c'est-à-dire un personnage de reality show dont on suit la vie, mais lui ignore qu'il est dans une émission de télévision. Alors, c'est intéressant parce que cette année-là, 1998, il y a trois films, enfin autour de ces années-là, une sorte de trilogie, il y a Disjoncté, il y a The Truman Show et Man on the Moon, qui sont trois films sur la télévision, et vous racontez, Adrien Desnouettes, et vous analysez dans votre livre à quel point toute sa filmographie, finalement, porte la marque indélébile de la télévision. Adrien Desnouettes.
Oui, tout à fait, et d'ailleurs, c'est presque plus que ça, en fait, c'est toute sa vie qui porte la marque de la télévision, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Jim Carrey est né en 1962 au Canada, en Ontario. Il reçoit les émissions américaines et en fait, il appartient à cette génération qui n'a jamais connu le monde sans la télévision. C'est la première génération qui a grandi devant l'écran. Or, il se trouve que Jim Carrey, petit garçon de la classe, disons, moyenne puis populaire, parce que sa famille a connu une espèce de petite banqueroute, Jim Carrey a beaucoup regardé la télé. énormément. Il accompagnait sa mère qui a souffert, il ne s'en cache pas, hein, qui a souffert de dépression et qui passait sa journée en fait devant la télévision. Et ce que raconte Jim Carrey quand il arrive avec cette espèce d'excès capable de mimer tout un tas de références culturelles, hein, qui irait de la musique à la politique en passant par le cinéma et la télé. En fait, ce que raconte Jim Carrey en arrivant dans le cinéma des années 90, c'est qu'il raconte l'histoire d'un corps qui aurait été traversé par des images qui sont celles de la télévision. J'ai presque envie de dire que Jim Carrey, la clé burlesque de ce personnage-là, la clé conceptuelle, c'est de bien comprendre que c'est un corps qui n'est plus que des images et de la volonté de réussir et de devenir une célébrité. Et donc de la volonté d'intégrer la télévision, d'entrer dedans. Ce qu'il raconte, c'est aussi le désir, hein, qui est très contemporain de sa génération, des années 90. On est dans une décennie qui ne connaît pas encore Internet. On est presque dans un point culminant de la culture cathodique et télévisuelle. Et donc, il arrive au bon moment, en fait. Il arrive au bon moment pour dire que, aujourd'hui, ce que tout le monde souhaite, c'est un peu une version excroissante, hyperbolique du quart d'heure de gloire qu'avait prophétisé Warhol. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que tout le monde veut, c'est passer à la télévision. Et c'est pour ça que le moment de sa carrière où on touche, j'ai envie de dire, ce qui est le plus sensible et le plus personnel de ce qu'il avait raconté, c'est justement ces trois films. Disjoncté en 1996, The Truman Show en 1998 et Man on the Moon, surtout, qui est absolument magnifique, en 1999. Et ces trois films, en fait, qui déclinent chaque fois une espèce d'étude de cas, de ce qu'est devenu cette génération qui a grandi dans l'écran, devant l'écran en tout cas, et qui n'a jamais cessé de désirer d'entrer dedans. Alors d'abord, on a Disjoncté, qui est un enfant de la télé qui, en fait, ne sait pas parler autrement qu'en contrefaisant ou parodiant des animateurs télé, des séries, qui s'invente lui-même un personnage qui vient d'une série télévisée, d'une sitcom. On a ensuite le Truman Show, qui est une espèce d'anticipation écrite par Andrew Nichols et réalisée par Peter Weir, d'un personnage qui serait né lui-même dans la télé, in televisio, comme je le disais, mais qu'il ignore, donc une vision complètement dystopique. Et puis, un troisième cas de figure qui est en fait un biopic d'Andy Kaufman, et qui la touche de très près aussi, j'ai envie de dire qu'il gratte la corde sensible de Jim Carrey, de son humour, puisque c'est le biopic d'Andy Kaufman qui était lui-même un comique de la fin des années 70-80, qui avait très bien compris que la télé avait gagné en fait son match contre le réel, et que tout n'était que télévision, tout n'était que spectacle. Et lui, sa mission à Andy Kaufman, c'était de le détruire de l'intérieur, le spectacle. Mais comment ? Eh bien, en ne jouant jamais le jeu. Et Jim Carrey, en fait, je vais finir là-dessus, Jim Carrey a bien compris que lui ne pourrait pas faire, n'aurait pas le courage, en tout cas, de faire ce qu'avait fait Andy Kaufman, c'est-à-dire ne pas jouer le jeu, mais qu'il avait peut-être sa carte à jouer en faisant ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire exploser de l'intérieur le cahier des charges. Vous voulez que je sois spectaculaire, vous voulez que je vous en donne, vous voulez que je vous donne à manger comme la télévision américaine réclame énormément d'excès, eh bien, je vais vous en donner encore plus. Je vais faire exploser le cahier des charges de l'intérieur. Et c'est exactement ce qu'a fait Jim Carrey, non seulement en jouant Andy Kaufman dans Man on the Moon, mais c'est ce qu'il a fait dans sa carrière, en fait. C'est ce qu'il a fait à chaque fois qu'il apparaissait à la télé. Et c'est là que c'est très intéressant de voir Jim Carrey à la télévision. C'est la créature télévisuelle la plus aboutie qu'on ait jamais vue de l'histoire du show business. C'est-à-dire que Jim Carrey est absolument imprenable. Jim Carrey, c'est exactement comment se comporter, c'est exactement comment retourner une question à sa faveur, à son avantage. Il est capable d'improviser un show, il est capable de prévoir, mais aussi voilà, de rebondir. C'est une créature télévisuelle absolue qui est largement plus à l'aise que toutes les autres stars de son époque, y compris les grands comiques comme Robin Williams ou Eddie Murphy, qui vont toujours avoir une petite réserve. Jim Carrey n'en a aucune. C'est comme si, en fait, il avait passé sa vie à s'entraîner pour arriver à la télévision. Et c'est ce qui va arriver, évidemment. Et j'ai presque envie de dire, voilà, il a retrouvé, c'est un peu c'est quelque chose que j'effleure dans mon livre, mais sa mère regardait la télé et avait détourné en fait son attention de son petit dernier. Jim Carrey était le petit dernier, et en allant dans la télévision, en fait, il a retrouvé un peu l'attention de sa mère. C'est un peu ça l'histoire de Jim Carrey.
Open the choke and pull the cord bell. I'm due for a size I can end. You're dancing on the fault line.
Hey, what is your problem, pal?
I got no beef with you. This is between me and the kid.
Stop it!
You started it.
I'm so sorry. I have to apologize.
Come on. Stand right here for us.
There's a thing
Let's
where...
Go. Just... Oh, poor baby. Yesterday, this daddy fight his battle storm.
He's an ass.
Pussy.
How's it hanging, fellas?
Hank, I presume.
Do you miss me?
Vous écoutez France Culture, plan large sur la comédie transgressive avec Yannick Mourin et Adrien Desnouettes. Et qui de plus transgressif dans les années 90-2000 que les frères Farrelly, les âmes sœurs de Jim Carrey. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Fou d'Irène avec Jim Carrey dans une sorte de double rôle puisqu'il joue un personnage schizophrène, un policier exemplaire jusqu'à la bêtise d'ailleurs par moment et qui est parfois possédé par son double maléfique Hank, qui va exprimer tous ses désirs profonds. Alors, vous notez, c'est intéressant, Adrien Desnouettes, que le film sort en 2000, et en 2000, c'est la fin de la décennie Clinton, et vous faites un parallèle étonnant entre le Bill Clinton de l'affaire Monica Lewinsky et le double rôle de Jim Carrey dans Fou d'Irène, Adrien Desnouettes.
Oh bah ouais, c'est même plus qu'un parallèle. Je considère que, au même titre qu'on a beaucoup parlé du muscle et du film d'action dans les années Reagan en disant que c'était un peu le prolongement de ses discours, hein, vous savez, les films d'action comme Rambo 2, tout ça, je postule, j'émets en tout cas l'hypothèse que les années Clinton, eh bien, en fait, c'est Jim Carrey qui en est le visage. Parce qu'à un moment, Jim Carrey, il apparaît certes avec trois films en 94 où il joue une espèce de grimace continue, hein, qui n'est qu'une grimace, mais très vite, il va comprendre, à partir de Menteur-Menteur en 97, que son visage élastique, il lui permet surtout de jouer quelque chose de très drôle et de très universel, qui est le moment où notre masque social tombe, craque, pour X raisons. Et le film, j'ai envie de dire après, Menteur-Menteur, qui va être... qui d'ailleurs, pour moi, je fais une parenthèse là-dessus, je suis obligé de le dire, j'en profite, hein, je suis obligé de le crier, mais pour moi, Fou d'Irène est la dernière très 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 grande comédie burlesque du cinéma américain, et je considère même que c'est un chef-d'œuvre tout court. Et justement, c'est un film qui apparaît 2 ans après le parjure de Bill Clinton, du moins le parjure avoué en Mondovision de Bill Clinton, et qui, je pense, n'est pas du tout étranger. Les frères Farrelly savent très bien que Jim Carrey vient de jouer Menteur-Menteur, que la presse américaine, à partir du moment où Bill Clinton a avoué qu'il avait menti, la presse américaine a fait le parallèle elle-même. Hein, le Daily News titré « Liar, Liar », donc le titre d'origine de Menteur-Menteur, en posant la tête de Bill Clinton dessus. Donc, il y a eu un côté comme ça... Jim Carrey est le visage des années Clinton. Et justement, cette masculinité qui n'arrive pas à être exemplaire, cette espèce d'homme de loi dans Fou d'Irène, qui est un policier et qui doit donc maintenir l'ordre dans sa petite société de Providence, une ville du Rhode Island, eh bien, il n'y arrive pas parce qu'en fait, il est secoué comme n'importe qui de plein de problèmes. En fait, il se laisse marcher dessus. Et puis, son masque craque et puis il devient l'inverse. En fait, il devient une espèce de transgresseur de tous les tabous de la civilisation. Et puis, ça devient une espèce de grand florilège burlesque puisque dans un même corps, qui est celui de Jim Carrey, eh bien, on va jouer, on va ramasser un petit peu le béaba, l'alpha et l'oméga du burlesque, c'est-à-dire des courses-poursuites, du slapstick, des bagarres, mais dans un même corps, Jim Carrey jouant tout ça. Donc ça lui permet, c'est pour ça que je dis que c'est un immense chef-d'œuvre, ça lui permet à la fois de faire résonner son travail avec bah, tout simplement sa décennie politique, hein, une décennie où la masculinité n'a plus rien à voir avec les cow-boys monolithiques réganiens, on est sous l'ère Clinton, où en fait, bah, voilà, le président de la première puissance mondiale avoue sa faute comme un petit garçon, et puis en même temps, on est dans une espèce de grand florilège burlesque orchestré par les frères Farrelly, qui savent très bien ce qu'ils font, hein. Ce sont des grands fans de Harold Lloyd, de Charlie Chaplin, et puis qui offrent à Jim Carrey ce qu'on pourrait appeler une espèce de dernier baroud d'honneur à la comédie burlesque américaine.
Jim Carrey, depuis les années 2000, n'est plus tout à fait le Jim Carrey dont on vient de parler. On a parlé tout à l'heure de The Truman Show, son premier rôle sérieux, qui est récompensé par Hollywood, manière de lui dire « bon, ça serait bien d'arrêter d'en faire des caisses ». Il va en faire ensuite des films qui, d'une certaine manière, neutralisent le personnage dont vous avez parlé.
Oui, oui, complètement. Bah, en fait, Jim Carrey prend acte à partir des années 2000, hein, donc bah, déjà à partir des attentats, à partir du Patriot Act, à partir des contre-offensives américaines au Moyen-Orient qui ont été, mine de rien, plus polémiques que soutenues. En fait, il y a vraiment une espèce de climat dépressionnaire en Amérique, mais aussi dans son cinéma. Et la mode du cartoon décline à ce moment-là. Vraiment, il y a même une date, hein, en 2003, il y a plusieurs films encore cartoonesques qui se plantent complètement au box-office. Et puis 2003... c'est aussi le moment où Jim Carrey va commencer à réorienter sa carrière vers des films qui vont essayer de laver son personnage, un petit peu de le récurer, un petit peu de le tremper dans un bain de lavande pour essayer de faire pardonner un peu toutes ces outrances qu'il a pu commettre dans les années 90. Alors, les films évidents où Jim Carrey retourne sa figure, c'est évidemment Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais aussi Yes Man et le drôle de Nell de Scrooge, qui en fait partage le même personnage que Eternal Sunshine de Michel Gondry, qui est un Jim Carrey triste au point mort et qu'il va falloir réveiller. Et en fait, c'est le moment où sa filmographie va plutôt que d'exploser des cadres, plutôt que de se moquer de l'homme moyen, ou plutôt d'incarner l'homme moyen pour en rire avec nous. C'est le moment où en fait Jim Carrey va épouser là pour faire un petit peu écho à ce que disait tout à l'heure Yannick Mourin, un schéma beaucoup plus normatif qui celui du feel better movie, quoi, du film où on va mieux. Et le problème, c'est que cette espèce de rédemption réclamée par Jim Carrey dans les films n'a plus rien de subversif. Et puis en fait, moi personnellement, ne m'intéresse plus beaucoup et n'a plus rien de très intéressant. Et d'ailleurs, les films de Jim Carrey ne marchent plus autant que les années que ces grandes comédies des années 90 à ce moment-là.
Et très rapidement, Adrien Denouen, vous allez même jusqu'à dire que la disparition du Jim Carrey d'origine des écrans n'est peut-être pas pour rien dans l'élection d'un Donald Trump, qui est un personnage complètement du Jim Carrey des années 90.
Bah disons que quand on supprime l'idiotie de tous les écrans et de tous les multiplexes, quand il n'y en a plus du tout, quand vous n'avez plus Dumb and Dumber ou Ace Ventura qui vous permet de comparer un personnage aussi narcissique et cartoonesque que Donald Trump, c'est difficile de faire le comparatif, c'est difficile de garder en mémoire qu'en vérité, celui que vous êtes peut-être en train d'élire, bah c'est Ace Ventura en fait, c'est quelqu'un qui célèbre ses victoires par des coups de rein, c'est quelqu'un qui est une espèce de... des rotomanes assumés. Donc oui, en fait, le rire cathartique idiot des années 90 ayant complètement disparu, ayant complètement déserté des salles, mais même, j'ai envie de dire, de l'industrie, hein, le rire idiot, le rire, ce que j'appelle un peu le rire énorme et brontosaurique, il a disparu. Il a complètement disparu. Donc c'est... Voilà, cette catharsis n'ayant plus lieu, l'idiocratie n'étant plus montrée sur les écrans, elle a ressurgi ailleurs, elle a ressurgi dans le réel, et Donald Trump est une espèce d'Ace Ventura qui aurait pris les commandes de la première puissance mondiale.
Friendly world, with each day so full of joy. Why should any heart be lonely? My turn in this friendly world, with each night so full of dreams. Why should any heart?
Second word with
the sky so
full of
stars
and the
river
so
full
of
song. Every
heart
should
be
so
thankful. It's a friendly world, don't you think so, Michael?
Yep.
Oh yeah?
Merci Adrien Denouet, on se quitte sur cette chanson finale de Man on the Moon. Il me semble d'ailleurs qu'on l'avait déjà entendue dans le plan large que nous avions consacré à Miloš Forman, mais on ne s'en lasse pas de cette chanson. C'est Jim Carrey qui chantait sous sa double incarnation d'Andy Kaufman et de son double maléfique Tony, en duo ou en trio, donc avec Michael Stipe de REM. Votre livre Jim Carrey, l'Amérique démasquée, publié chez Façonnage Éditions, en attendant son adaptation en documentaire que vous comploter actuellement pour Arte, on sera très vigilant à cela. De Yannick Mourin, prendre au sérieux la comédie avec en couverture les Joséphine et Daphné de Certain Lame Show alias Tony Curtis et Jack Lemmon, c'est au très sérieuse CNRS édition, et pour en prolonger les plaisirs, on vous renvoie au plan large que nous avons consacré à nombre de thèmes et cinéastes que vous y abordez, Yannick Mourin, que ce soit la screwball comédie Preston Sturges, le précité Billy Wilder et son maître Ernst Lubitsch ou encore Vittorio De Sica. Vous pouvez aussi, si vous avez l'âme transgressive précisément, vous faire offrir pour Noël le passionnant coffret Forbidden Hollywood que vient de sortir la Warner, 10 fleurons des films dits du pré-code, c'est-à-dire réalisés entre 1929 et 1934, entre la rédaction du code Hays et son application effective. Ces films étaient pour le coup d'une audace assez dingue en termes de liberté sexuelle, morale et politique, et on y voit les jeunes visages qu'étaient alors Clark Gable, Bette Davis, James Cagney, Barbara Stanwyck ou même John Wayne, pas encore encore l'incarnation du patriotisme étoilé. Ces films étaient ressortis en salle cet été, entre deux confinements, et ils y ont fait un tabac. Les voici donc disponibles en DVD, et on signale encore la parution d'un autre somptueux coffret DVD Blu-ray chez Wildside. C'est la version restaurée de L'homme qui voulut être roi, un des films les plus personnels de John Huston, un des plus beaux rôles aussi de Sean Connery, en aventurier britannique saisi d'hubris en Afghanistan. On y reviendra prochainement dans une chronique. Pour l'heure, on enfourche nos motos à longue fourche, justement, direction la Nouvelle-Orléans.
Oh, I'd like to get over there. How long did you boys say it was going to take you to get down there?
Oh, about 2 or 3 days.
2 or 3 days, that right? Oh, boy, I sure wish I was going with you.
Yeah? You got a helmet?
Oh, I've got a helmet. I got a beauty. If you wanna be a bird.
On a tous en mémoire l'image mythique et fondatrice du nouvel Hollywood de Peter Fonda et Dennis Hopper arpentant l'Amérique profonde et ses routes interminables dans Easy Rider en 1969. On oublie parfois que derrière Captain America avec un casque de football américain doré sur la tête, il y avait un drôle d'avocat qui faisait des bruits bizarres avec sa bouche quand il buvait de l'alcool. C'était Jack Nicholson, et avec ce film, l'acteur qui cachetonnait surtout alors comme scénariste de série B, Jack Nicholson accédait enfin, la trentaine passée, à la reconnaissance qui allait lancer la carrière que l'on sait. Le magazine SoFilm a beau consacrer la couverture de son numéro actuellement en kiosque à George Clooney, il consacre un volumineux dossier à la star actuellement retraitée en explorant précisément combien la décennie folle des 60s et sa contre-culture a en fait infusé toute la carrière de l'acteur, l'acteur de tous les excès performatifs. Raphaël Clairfond.
Oui, alors effectivement, si on vous dit Jack Nicholson, vous pensez peut-être d'abord aux performances outrées, à la hache de Shining, à la moustache 70s ou encore au rire diabolique du Joker. Mais bref, le mythe vit toujours trempé dans la pop culture et l'inconscient cinéphile. Mais dans le dernier SoFilm Gal Sadat, notre journaliste nous raconte un autre Nicholson, celui qui était obsédé par les grands auteurs européens, qui se rêvait cinéaste et qui a donc signé 3 longs métrages, notamment un western barré, Going South, et une suite tardive et un peu ratée à Chinatown, qui s'appelle The Two Jakes. Alors à ses débuts, la star se sentait quand même comme un poisson dans l'eau, chargé en psychotropes des années 60, et avait commencé sa carrière comme scénariste, donc à tout faire, pour la petite fabrique de série B de Roger Corman, puis aux côtés de Monty Hellman. Mais son film de la consécration en tant que réalisateur, ça aurait dû être Drive, He Said, vas-y fonce en VF. Jack a alors 33 ans et il pose pour son premier film un regard sur les brèches ouvertes dans la société américaine depuis les années 50 et sur les chances vagues de trouver un ailleurs au bout de la route. Sorti en 1971, Drive, He Said diagnostique l'échec annoncé de la contestation étudiante. Sur un campus, le film raconte l'histoire d'un basketteur un peu paumé, insouciant et chaud lapin, qui se heurte aux inquiétudes de son coach, incarné par Bruce Dern, mais aussi à l'indécision de Karen Black, dont il est amoureux, et surtout à la fureur psychotique d'un de ses amis activistes. Nicholson tourne à la fac de Eugene en Oregon, et d'après Michael Margotta, qui joue l'activiste, les facs californiennes en fait ne voulaient plus qu'on tourne chez elles des pamphlets à la gloire de la jeunesse rebelle. Il précise que Jack était aussi attiré par l'Oregon parce qu'il était fasciné par les milieux contre-culturels qu'il y trouvait et par ses routes de cambrousse qui conduisaient supposément vers un ailleurs, vers une autre vie. C'est d'ailleurs dans une de ces communautés hippies perchées dans les montagnes de l'Oregon que Nicholson envoie son comédien se mettre dans la peau du personnage.
That's unusual, man. I mean, hey, look, you're living in a diseased culture. I don't know how you can be surprised at something like that. You're diseased, I'm diseased, she's diseased, the whole world is diseased, don't you understand? You gotta do something about it, that's all.
Hey, are you sure about that?
Sure about this. Yeah, I'm sure about it. What do you think? Am I sure about it? I can't let these assholes draft me, man, right?
I just, why don't you wait a minute? Think about what you're doing. You're throwing these things into your face.
You just wait a minute. This is no shit. This is it. This is no game. You understand? This is death. This is army, war, shoot, blood, fear, kill. No way, man, no way. I'm making a stand right here. That's all there is to it. For me, it is strictly a survival trip. I'm out to save myself. That's all.
Raphaël Clairfond.
Oui, alors, donc, qu'il s'agisse des épopées picaresques de Monty Hellman, telles que L'ouragan de la violence, ou de L'halluciné, réalisé en 63, qui est une vraie fausse adaptation d'Edgar Poe, qu'il interprète et co-réalise avec Corman, le motif de la route brisée se déploie dans tous ses récits, comme s'il ne pensait jamais qu'à tracer une piste secrète à travers l'Amérique moderne. À chaque fois, le trajet est tronqué et le périple démarre sans que l'on sache vraiment bien d'où provient le pèlerin. Hélas, à l'arrivée, le film est un four, en dépit de quelques séquences fortes, notamment des matchs de basket où on sent toute la passion de Nicholson pour ce sport qu'il n'a jamais pratiqué très sérieusement. Alors lui, qui a si bien su incarner la contre-culture dans Easy Rider, comme tu vous l'avais dit, n'a pas vraiment su filmer le trip éclair et tragique que vient de vivre l'Amérique. Michael Margotta se souvient de la projection cannoise qui est catastrophique. Il raconte, j'ouvre les guillemets, « À Cannes, on a été longuement hué. La projection fut un désastre embarrassant, ponctué par les cris du bébé de Mick Jagger, qui avait eu la bonne idée de venir en famille. Les gens n'en pouvaient plus des personnages de hippies dévoyés, d'autant que Charles Manson était passé par là et l'Amérique voulait oublier. Jack a raté son rendez-vous avec l'époque. » Voilà, donc cette carrière avortée de cinéaste ne l'aura évidemment pas empêché de connaître la gloire devant la caméra, sans doute parce qu'il personnifie aussi jusqu'au grotesque cette transition entre deux époques. Nicholson se taille donc vite une légende d'acteur spécialisé dans l'expression schizophrénique et les maisons hantées. Mais hélas, Nicholson n'a plus tourné depuis son second rôle dans « Comment savoir » de James L. Brooks. C'était en 2010, il y a plus de 10 ans. Un peu comme s'il avait bel et bien fini par trouver son chez-soi et choisi de s'y retirer. Après le carton d'Easy Rider en 69, Jack Nicholson s'était d'ailleurs empressé de s'installer sur la prestigieuse Mulholland Drive de Los Angeles, pas loin de Warren Beatty et Dennis Hopper. Surtout, il était très fier de partager la même allée privée que son idole, Marlon Brando, avec qui il finira par se brouiller sur le tournage de Missouri Breaks d'Arthur Penn. Cependant, à la mort du monstre sacré Brando, Nicholson décide de racheter sa maison délaissée pour la bagatelle de 6 millions de dollars et la pulvérise dans la foulée pour y faire pousser des frangipaniers. Une manière comme une autre de régner seul sur sa colline.
Merci Raphaël Clairfond, on se quitte sur la musique du psychédélique The Trip de Roger Corman qui avait été écrit par Jack Nicholson. Jack Nicholson qui est à retrouver dans ce film actuellement en kiosque. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Clara Galivelle. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et Gwendoline Troiano et réalisée par Laurent Polleret. «
La semaine prochaine, nous vous proposerons la réécoute d'un plan large totalement dans l'air des temps absurdes que nous vivons tous, puisqu'il y sera question de nonsense. Et nous reviendrons également sur le visionnaire Satan Tango de Bellatar, enfin disponible en coffret DVD et Blu-ray, dans une magnifique copie restaurée. Bonne fête malgré tout d'ici là. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, toute une vie, présentée par Christine Bernard.